20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Nous évoquions hier le centenaire de la naissance de Camille Saint-Saëns. Nous nous intéresserons ce soir à l'autre centenaire que nous célébrerons en 2021, celui d'Astor Piazzolla, et cela en compagnie de la jeune et brillante bandoneoniste Louise Jalu, qui vient de nous offrir un formidable album dédié au compositeur argentin. Thierry Ilerito du Figaro, qui nous avait justement dressé le portrait de Louise Jalu la semaine dernière, nous rejoindra ensuite pour nous parler cette semaine d'une jeune chef d'orchestre, Lucie Leguet. Mais pour commencer, comme chaque soir, quelques nouvelles du monde musical. La production de Titon et l'Aurore de Mondonville, qui se répétait ces dernières semaines à l'Opéra Comique et devait être programmée du 18 au 27 janvier, fera finalement l'objet d'une captation et sera diffusée gratuitement sur Medici.tv en direct le 19 janvier, donc mardi prochain à 20h, puis disponible en streaming. On pourra également la découvrir plus tard sur Mezzo. William Christie, qui dirige cette pastorale héroïque de Mondonville, nous en dira quelques mots lundi, puisqu'il sera notre invité dans le journal du classique. Les concerts pourraient reprendre l'automne prochain aux États-Unis, c'est ce que vient de déclarer le désormais célèbre docteur Anthony Fauci, immunologue émérite, considéré comme le plus grand spécialiste des maladies infectieuses aux États-Unis et conseiller Covid de la nouvelle administration de Joe Biden. Si le pays atteint un taux d'immunité satisfaisant, soit 70 à 85% de vaccination de la population américaine, il sera possible, selon lui, à l'automne 21, de faire en sorte que les artistes se sentent en sécurité sur scène, tout comme le public dans les salles. Les États-Unis enregistrent aujourd'hui des pertes financières estimées à 15 milliards de dollars dans le secteur des arts et du spectacle culturel, et cela depuis le mois de mars dernier. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Pas de troisième mandat pour Marc Minkowski à Bordeaux. Le chef et directeur musical de l'Opéra National de Bordeaux vient d'annoncer que son second mandat, qui arrive à échéance en août 2022, sera son dernier, mais que son engagement auprès du public bordelais se poursuivra au-delà sous une autre forme. La proposition qui m'est faite par la mairie de Bordeaux de garder un rôle artistique dans les saisons à venir, dès 2022, est pour moi un grand honneur et une réelle satisfaction. J'ai l'intention de créer en outre à Bordeaux et dans la région Nouvelle-Aquitaine un festival unique dédié à des expériences musicales nouvelles, toujours au plus près des mélomanes de la cité girondine et au-delà, a déclaré Marc Minkowski. Le processus d'appel à candidature pour le recrutement de son successeur sera lancé très prochainement. 9, 10 et 11 avril, telles seront les dates de la folle journée de Nantes, dont le conseil d'administration a décidé hier de décaler l'édition 2021 prévue initialement du 3 au 7 février. Trois jours, entre 30 et 40 concerts, une édition allégée donc, soumise à de strictes règles sanitaires, mais une édition qui aura bien lieu. La billetterie ouvrira le 20 mars et la programmation sera annoncée dans les prochaines semaines. Cette année, la folle journée célébrera Mozart et Bach.
Thank you.
Le choral d'une cantate de Jean-Sébastien Bach par Anne Kefelec, une fidèle de la Folle Journée de Nantes. Folle Journée qui se tiendra donc cette année du 9 au 11 avril. Nous ne connaissons pas encore la programmation ni les musiciens invités, des musiciens qui en tout cas viendront célébrer Bach et Mozart.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Du bandoneon, pour continuer cette émission, le bandoneon, l'instrument d'Astor Piazzolla, dont on célèbre cette année le centenaire de la naissance. Instrument dont l'une des ambassadrices de la nouvelle génération est Louise Jalut, cette jeune musicienne que nous présentait la semaine dernière Thierry Ilerito. Son tout nouvel album, Piazzolla 2021, qui sort cette semaine chez Clart, rend hommage justement au maître argentin, à celui dont le nom est quasi indissociable de cet instrument, le bandoneon, qui était un peu comme le prolongement de son âme, comme nous le raconte ce soir Louise Jalut.
Piazzolla avait pour habitude d'écrire pour son instrument, et c'était pour lui comme, j'ai l'habitude de dire, comme des poumons. Est-ce que c'est vraiment le fonctionnement même de l'instrument est comme ça, de respirer avec. Et il a toujours écrit pour cet instrument, et je ne vois en cet instrument que le prolongement effectivement de sa propre personnalité. Et on ne pense plus aujourd'hui le bandoneon autrement qu'en passant par ces grandes personnalités qui sont donc parmi les grands, Astor Piazzolla, mais aussi Annibal Troilo, des plus actuels, il y a Dino Saluzzi, et puis des maîtres argentins avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et d'apprendre, notamment au conservatoire de Gennevilliers, qui sont Juan José Mussolini ou encore César Strozio. Voilà, tant d'instrumentistes qui ont marqué l'histoire de cet instrument.
Par rapport au lien avec Piazzolla, on a l'impression que le bandoneon, même si vous les citiez d'autres figures, d'autres musiciens se sont illustrés brillamment avec cet instrument, on a l'impression que le bandoneon, il est presque indissociable de la musique de Piazzolla. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être découvert cet instrument en écoutant la musique de Piazzolla ?
Alors, j'ai découvert cet instrument par hasard et par chance, alors qu'on habitait la ville de Gennevilliers. Et c'est dans cette ville qu'est née cette grande institution, grâce à son directeur Bernard Cavana, dans les années 80. Toute petite, ma sœur a choisi cet instrument et c'est par son biais que je l'ai connu. C'est ensuite par cet instrument que j'ai connu le tango. Donc c'est d'abord le bandoneon et ensuite sa culture et son répertoire. Alors évidemment, c'est un instrument emblématique du tango. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier le bandoneon de cette musique populaire et qu'il est encore aujourd'hui.
Votre album, Louise Jalut, dédié à Piazzolla, s'ouvre avec Soledad, donc un chant de solitude, puisque le bandonnet, en tout cas la musique de Piazzolla, est souvent liée à une certaine nostalgie. Je ne sais pas si c'est nostalgie le mot juste pour décrire cette musique, une forme de mélancolie, quelque chose de très déchirant qu'on retrouve dans sa musique, même si elle est aussi très rythmée, très vive.
Effectivement, c'est un instrument qui est souvent lié à la mélancolie. À la mélancolie de l'exil, parce que c'est vrai que c'est une musique qui est née par les mouvements de population, notamment italienne, à la fin du 19e siècle. Et c'est dans cette musique que se retrouvent tous les souvenirs d'un pays qu'on a laissé, d'une famille qu'on espère retrouver plus tard et qui malheureusement ne pourra pas nous rejoindre. Donc c'est toute ce vécu-là que cette musique communique. Piazzolla le disait lui-même, que le bandoneon, comparé à l'accordéon, n'a rien de joyeux en lui.
Voilà. Mais il avait cette nostalgie. Piazzolla, il a connu l'exil d'ailleurs, il a vécu à New York, et il est venu en France aussi étudier. Il percevait ce sentiment de l'exilé, cette nostalgie de l'exilé.
Oui, il a toujours eu cette sensibilité. Et puis il a connu un malheur très jeune. Il a perdu son père. C'est de là qu'est né le morceau Adios Nonino, Adieu petit papa. Il a aussi vu son père, quand il était jeune, pleurer en écoutant le tango, et il s'est toujours demandé pourquoi, et il a compris par la suite, en étudiant le tango, parce qu'il a commencé effectivement le bandoneon à New York avec un musicien plutôt de classique. Et c'est seulement vers 17-18 ans qu'il, en revenant à Buenos Aires, a appris le tango auprès de grands maîtres dans les grands orchestres. Mais c'est venu par la suite.
Voilà. Et il est allé aussi étudier auprès de Nadia Boulanger. Il fait partie des célèbres élèves de Nadia Boulanger, avec cette intention de se fondre dans le monde de la musique classique européenne. Et c'est Nadia Boulanger qui l'en a dissuadé en lui disant « Mais non, il faut continuer à écrire du tango ». En même temps, il avait cette envie d'appartenir à ce monde de la musique entre guillemets savante. Sa musique est d'ailleurs assez écrite. Beaucoup de musiciens classiques se sont appropriés la musique de Piazzolla.
Exactement. Il avait ce souhait, ce rêve depuis tout petit de devenir un compositeur de musique symphonique. Il a d'ailleurs fait plusieurs essais avec le bandoneon, en le positionnant comme un instrument concertiste face à l'orchestre. Mais je crois que ce n'est pas à cet endroit que Piazzolla a créé le meilleur de lui-même, mais bien avec son quintet, là où il a rayonné pleinement à travers cette culture du tango qu'il a su amener plus loin, la faire évoluer, alors même qu'il avait de nombreuses oppositions de ses plus proches connaissances sur sa musique, sur la manière dont il abordait le tango. Et ça a été pour lui des années et des années de combat pour convaincre que sa musique, qui était rattachée bien sûr à ses études dans le tango traditionnel, mais était une musique actuelle, un tango moderne, inspiré aussi bien du jazz que de la musique contemporaine, pour lesquelles il avait beaucoup d'estime.
Et c'est ce qu'on perçoit, cette modernité de la musique de Piazzolla, dans votre enregistrement Louise Jalut qui vient de paraître. Les mélodies, les célèbres mélodies de Piazzolla comme Oblivion, qui peut être l'un de ses titres les plus emblématiques, vous les revisitez, Louise Jalut, avec une grande liberté, avec vos partenaires, les partenaires de votre quartet. Vous vous êtes également associé pour cet enregistrement au pianiste Gustavo Bettelmann, qui a bien connu Astor Piazzolla, et à Médéric Collignon, dont on peut entendre dans ce thème d'Oblivion un magnifique solo au bugle. On a l'impression, on ressent en tout cas dans cette interprétation, une grande liberté, une part d'improvisation. La musique de Piazzolla, elle offre à l'interprète une grande liberté. On peut s'écarter du texte.
Tout à fait. Et ça a été l'ambition et le souhait avec Bernard Cavana, avec qui j'ai collaboré aux arrangements, de ne pas suivre à la lettre les arrangements de Piazzolla, mais bien de l'emmener ailleurs, porter un nouveau regard sur ce qu'il nous a laissé.
Et ce qui veut dire s'éloigner du texte, ce qui veut dire improviser, ce qui veut dire que certains thèmes même sont tellement métamorphosés que si l'âme est encore présente, on est dans un univers vraiment très différent.
Exactement. Le but a été d'utiliser les thèmes comme des standards comme pourrait interpréter un jazzman, en prenant les thèmes et en les modifiant, que ce soit vers une modalité plus élargie, vers des modes de jeu, vers de l'improvisation, notamment avec Médéric Collignon, qui fait un solo magnifique, notamment dans Oblivion. Et l'apport aussi de Gustavo Bettelmann dans ce projet, qui s'éloigne parfois du texte, parce que dans le tango, on a pour habitude de s'éloigner du texte d'un point de vue rythmique, mais aussi de petites variations. On a cette liberté dans le tango de s'éloigner, contrairement aux musiciens classiques, du thème et de la partition. Ce qu'avait pour habitude de faire Piazzolla depuis sa jeunesse. Il le dit dans ses interviews, et il n'aimait pas copier. Et pour lui, l'artiste se devait de créer, de ne pas reproduire ce qui avait déjà été fait.
On est proche, dans votre interprétation, Louise Jalut, d'un esprit très jazz de la musique d'Astor Piazzolla. Quel lien entretenait-il justement avec le jazz?
Je crois qu'il a toujours été fasciné par les musiciens de jazz. Il a eu plusieurs collaborations, parmi elles le célèbre saxophoniste Mulligan. Son souhait a toujours été d'emmener le tango vers ce genre-là, vers l'improvisation, vers des harmonies plus colorées. Il a fait ce pas, notamment dans Tristesse d'une double A, qui est sur le disque, où à la fin du thème, il part dans une très grande improvisation, et aussi au début, où la cadence de bandoneon est très improvisée. Il était fasciné aussi par Miles Davis. Il relate dans une de ses interviews un souvenir d'un concert à Montreux, au célèbre festival de Montreux, où il avait la crainte de passer après Miles Davis face au public en liesse. Et il a été agréablement surpris de constater que le public était conquis par sa musique. Et pour lui, ça a été gagné comme une bataille, comme un combat, et donc une révolution.
Voilà, la musique de Piazzolla que vous célébrez, Louise Jalut, avec votre quartet, avec également le pianiste Gustavo Bettelmann et Médéric Collignon qui est au bugle, un album qui sort cette semaine sous le label Clart. Vous évoquiez tout à l'heure votre parcours qui a commencé à Gennevilliers, puisque c'est au conservatoire de Gennevilliers qu'a été créée la toute première école de bandoneon en France. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs, des écoles de bandoneon en France et en Europe depuis?
Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs classes de créer, notamment récemment en Avignon, une autre dont fait partie Gustavo Bettelmann à Rotterdam, mais il en existe aussi en Finlande, et j'espère que
en Finlande, où ils adorent le tango, c'est pas tout à fait le même, il y a une grande tradition du tango en Finlande.
Exactement. Et j'espère que de plus en plus, le bandoneon pourra rayonner et pourra continuer à perdurer dans le temps.
Mais on sent un engouement depuis quelques années pour le bandoneon de la part de musiciens européens.
Oui, c'est vrai qu'en fait, il y a eu une redécouverte de l'instrument, parce que le bandoneon était célèbre dans les années 20 et était beaucoup utilisé dans les orchestres, notamment dans le nord de la France. On avait des clubs de bandoneon en France, qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais de nouveaux instrumentistes et de jeunes instrumentistes s'y intéressent, et on espère que ça pourra continuer de nombreuses années.
Voilà, et vous incarnez entre autres cette nouvelle génération de bandoneonistes, Louise Jalut. Vous ne jouez pas que la musique de Piazzolla. Quels sont les autres univers musicaux que vous abordez au bandoneon? Est-ce que vous collaborez avec des compositeurs d'aujourd'hui? Alors, il y a Bernard Cavanagh, mais d'autres peut-être aussi.
J'ai une affection particulière pour la musique contemporaine, notamment avec Bernard Cavanagh, vous l'avez dit, on va créer une pièce pour bandoneon et orchestre le 20 mai à Rennes avec l'Orchestre National de Bretagne. L'occasion de mettre en scène le bandoneon dans un autre univers, de développer son langage, c'est pour moi quelque chose d'essentiel dans la vie d'un musicien, d'être acteur aussi de la musique d'aujourd'hui. Alors j'ai de nombreux compositeurs avec lesquels j'aimerais collaborer. Parmi eux, il y a une nouvelle création en Allemagne avec l'ensemble Sillage de Klaus Peter Verani, qui verra le jour en septembre, qui est pour quintette et bandoneon.
Voilà. Merci beaucoup, Louise Jalut, d'être passée nous
voir. Merci à vous.
Adios Nonino, un nouvel extrait de cet album Piazzolla 2021 de la bandoneoniste Louise Jalut, un album qui sort vendredi chez Clart. Louise Jalut est ici en compagnie des membres de son quartet, à savoir Mathias Lévy, Marc Benham et Alexandre Perrault, avec également la participation de Gustavo Bettelmann et de Médéric Collignon.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec Le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir là.
Alors ce soir, vous nous parlez d'un métier méconnu mais essentiel dans le monde de l'orchestre, celui de chef assistant.
Et oui, à travers le parcours d'une jeune chef dont on entend beaucoup parler depuis 2 ans. En France, Lucie Leguet, c'est elle qui a remporté en 2018 le premier tremplin pour les femmes chefs d'orchestre, organisé par la Philharmonie de Paris. Un tremplin qui servait en quelque sorte de fast test pour le futur concours international La Maestra, dont nous avions eu l'occasion de parler cet automne. Et puis, forte de cette première victoire, eh bien, elle avait décroché l'année suivante le poste de chef assistante commune auprès de 4 orchestres, l'Orchestre National d'Île-de-France, celui de Picardie, l'Orchestre de Lille et, excusez du peu, l'Ensemble Intercontemporain. Preuve que les jeunes chefs ne s'intéressent pas qu'au très grand répertoire, mais peuvent développer une expertise sur les musiques, y compris les plus pointues. À noter que ce n'était pas ses seuls engagements, puisque la jeune femme était également, depuis 2019, chef assistante au prestigieux Festival de Verbier, poste qu'elle occupe jusqu'en 2021, et qu'elle dirige également l'Orchestre de Chambre de Lille, qu'elle a elle-même fondé, c'était en 2014.
Un CV déjà impressionnant et qui vient de se rallonger d'une ligne supplémentaire, Thierry.
En effet, puisqu'on l'a appris il y a moins d'un mois, la jeune chef de 30 ans est nommée chef assistante de l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour seconder un certain Mikko Franck, un poste très en vue et qu'elle partage d'ailleurs avec une autre jeune femme, la Finlandaise Emilia Hoving. Outre le prestige de l'orchestre, c'est la diversité de son répertoire qui intéresse particulièrement Lucie Leguet, car celle qui définit son rôle d'assistante comme une deuxième oreille au service du directeur musical, c'est que le chef assistant est souvent aussi celui qui fait le lien avec d'autres publics, notamment le public jeune, grâce aux nombreux concerts pédagogiques que les assistants sont appelés à diriger. En la matière, l'Orchestre Philharmonique de Radio France ne manque pas de projets, dès que la situation sanitaire permettra bien évidemment d'accueillir de nouveau les scolaires ou les familles dans les salles de concert.
Un lien avec l'enfance qui lui tient d'ailleurs particulièrement à cœur.
Et pour cause, le coup de cœur de l'orchestre, elle l'a elle-même eu lorsqu'elle n'avait que 15 ans. C'est véritablement à cet âge que cette Lilloise, fille de pianiste, qui avait elle-même débuté l'instrument dès ses 3 ans, prend conscience de l'importance de l'énergie qui émane de tout le groupe en étant invitée à jouer au sein d'un orchestre. Elle le sait désormais, le pupitre de direction l'appelle. 3 ans plus tard, elle fait la rencontre de celui qui sera son mentor au Conservatoire de Lille, Jean-Sébastien Béraud, dans Chef, la web-série que la documentariste Camille Ducellier lui a consacré en 2019. Cette dernière n'hésite pas à le qualifier de maître Yoda. Pour moi, un bon chef, c'est quelqu'un qui est capable de faire de telle façon qu'à la fin, on dise « quelle musique, non pas quel chef », déclare ce dernier. Un précepte que Lucie Leguet n'a eu de cesse de mettre en application depuis et qu'elle entend bien faire passer aux musiciens jeunes ou moins jeunes des formations qu'elle dirige, qu'ils soient déjà ou futurs professionnels, comme ces jeunes étudiants de l'Académie Tous à l'Orchestre de l'Orchestre National d'Île-de-France, qu'elle aura dû diriger en mai dernier à l'Opéra de Massy dans la symphonie numéro 1, Titan de Mahler, un concert finalement reporté au 29 juin prochain.
Début du deuxième mouvement de la première symphonie de Mahler, avec ici Marie Sjönsson, c'est l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, symphonie que Lucie Leguet dirigera le 29 juin prochain à l'Opéra de Massy, à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Lucie Leguet.
Merci Laure.
Et à la semaine prochaine. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de Maxime Emelianichev, ce jeune chef russe qui vient de diriger l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, un concert que nous retransmettrons samedi à 21h. Merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.